Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Le mental de cellule, écrit en français par Satrem. Le mental des cellules est le chapitre 8. Je vais commencer le texte qui s'appelle Le nouveau principe de décentralisation, page 121. Cette première particule vivante à la frontière de la matière inanimée il y a peut-être 4 milliards d'années, elle n'avait pas encore de mémoire, sinon celle qui la reliait dans ses atomes au premier nuage d'hydrogène. Elle vibrait, palpitait, s'étendait pour absorber, grandir comme le noyau, pour absorber ses électrons comme les galaxies, pour entraîner d'autres galaxies et le Soleil d'autres planètes. Déjà, elle était en quête de sa totalité universelle, comme si rien ne pouvait être sans être tout, comme s'il y avait une grande mémoire totale au fond, fin ou amour. Un tourbillonnement d'être sur soi-même pour englober de plus en plus d'être et d'espace, et de combler une première unité dissoute dans une explosion de joie ou d'amour, ou de quoi que ce soit que l'on puisse mettre en équation, mais jamais dans sa poche. C'était la première trame, une habitude coagulée. C'est la même que Mère allait rencontrer, mais infiniment compliquée et solidifiée, par habitude, mentale humaine en somme au bout de l'évolution. Il s'agissait de savoir si l'on pouvait sortir du cocon sans en mourir et si l'on pouvait rejoindre cette totalité universelle imprimée dans nos atomes sans perdre le petit individu laborieusement formé à travers les milliards d'années de peine. Être à la fois le point et le tout. Cette habituelle coagulation humaine que nous appelons le mental physique était si intimement liée à l'amalgame du corps et à sa forme présente, disait Mère, que quand j'essayais de m'en débarrasser, cela produisait l'évanouissement. On s'éparpille dans le cosmos. Il fallait donc trouver un nouveau principe de coagulation ou de centralisation qui ne soit plus la répétition mécanique de l'habitude humaine. Quand l'habitude se défait, l'homme se défait. C'est le cocon mortel de toutes les espèces, la trame. Mère avait vu clairement le problème. Dans l'agenda 69, elle dit le 17 décembre 1969, la mort et la décentralisation de la conscience contenue dans les cellules du corps. Les cellules qui constituent le corps sont tenues en forme par une centralisation de la conscience qui est en elles. Et tant que cette puissance de concentration est là, le corps ne peut pas mourir. C'est seulement quand la puissance de concentration disparaît que les cellules s'éparpillent. Alors, le corps meurt. Le tout premier pas vers l'immortalité, donc, de remplacer la centralisation mécanique par une centralisation volontaire. Et puisqu'il n'y a pas de volonté mentale, intellectuelle, ni de volonté émotive, ni de volonté sensorielle, toutes les vieilles habitudes ont été larguées au cours de la traversée des couches. Il faut donc que ce soit une volonté cellulaire. Mais cette volonté cellulaire qui ne repose plus sur la mécanique de l'habitude, c'est justement notre cocon mortel. Qui reposera sur quoi ? C'est une question que pose Satprem. Qui reposera sur quoi ? Au cours de l'apprentissage cellulaire, les cellules avaient appris peu à peu et douloureusement qu'une goutte de sang peut tout guérir. Elles avaient appris à appeler ça, comme le noyau apprend peut-être à happer son électron. Mais une cellule, c'est très mécanique, même dans sa volonté primaire. Cela a besoin de répéter et répéter. Et de fait, ça répète immémorialement toutes les sottises de l'espèce humaine après l'autre. Il fallait donc trouver une sorte de mécanique non emprisonnante qui ne tisse pas autour de la cellule un nouveau cocon mortel et pourtant lui donne la cohésion ou la centralisation voulue. Mère a trouvé un moyen simple, si simple qu'il est à la portée de tout le monde. Avec Mère, c'est toujours très simple. Le moyen n'est pas nouveau, il est même très ancien, mais il est nouveau dans son application. C'est ce qu'en Inde on appelle le mantra. C'est le seul moyen mécanique que Mère ait jamais utilisé. Toute chose animée ou inanimée est douée d'une vibration qui lui est propre. Un caillou, le feu, un virus, l'eau, le radium, n'importe quoi. C'est la vibration de la force habituelle qui constitue cet objet. Sa fréquence ou sa longueur d'onde particulière, telle le quasar là-bas aux confins de l'univers. C'est le réseau ou la trame vibratoire qui enferme cet objet et lui donne une forme précise. Qui dit vibration, dit son. Même s'il est inaudible pour nous. Or, il existe une très vieille science des sons de l'Inde. Une science qui connaît toute la gamme vibratoire, depuis l'objet le plus matériel jusqu'à l'état de conscience le plus haut. Car un état de conscience a une vibration aussi, comme la colère ou la joie, ou l'odeur d'une plante, ou n'importe. Tous les états possibles ont une vibration particulière ou un son. Cette science, généralement très mal reproduite, l'objet a très mal reproduit l'objet. Il y a un son du feu, un son de l'eau, un son de la colère et un son de la béatitude suprême. Et les adeptes de cette science servent le plus souvent de leurs connaissances à des fins grossières et lucratives, magiques, sur lesquelles nous n'avons absolument pas besoin d'insister. Mais il existe aussi des sons qui ont le pouvoir d'évoquer des états de conscience. Les poètes le savent. Et si l'on peut semer la colère chez quelqu'un, on peut aussi y semer autre chose. L'amour a un son aussi. Peut-être même est-ce le son de l'univers. Ce son, quel qu'il soit, c'est ce que l'on appelle le mantra. Une vibration qui peut reproduire un certain état de conscience ou à l'autre bout, un certain état de la matière. Mais c'est peut-être la même chose. Ce mantra est généralement composé d'une ou de plusieurs syllabes sanscrites. Mère a donc trouvé son mantra. Depuis le début de ce yoga du corps, elle avait bien vu le pouvoir répétitif de cette substance cellulaire. Et elle s'était dit que si elle pouvait engrainer dans la matière un certain type de vibration, disons solaire, lumineux, expansif, comme l'amour, au lieu du type habituel, recroquevillé, sordide, pessimiste et mortel, alors peut-être aurait-on le pouvoir de donner à cette substance un nouveau principe de cohésion qui ne reposerait plus sur l'habitude mortelle, mais une habitude divine. Au lieu d'enrouler la mort, il fallait que la cellule enroule la vie éternelle. Mère s'est donc mise à répéter un mantra, son mantra, celui qui évoquait pour elle l'amour suprême, qui est la vie suprême. On commence par répéter le mantra ou la vibration avec sa tête et sa mémoire mentale, et peu à peu, il descend tous les degrés de l'être, dans le cœur, dans les sensations, dans les mouvements et jusque dans la mémoire du corps. Et une fois qu'il est fixé dans le corps, alors il ne bouge plus. Il répète cela invariablement. Oh, le cancer, oh, la gravitation, oh, j'ai mal, oh, tous les petits os qui font un corps habituel et mortel. En 1960, le 4 juin 1960, Mère décrit le son à une puissance en soi. Et en obligeant le corps à répéter un son, on l'oblige en même temps à recevoir la vibration. Mais il faut que les mots aient une vie en soi. Je ne veux pas dire une signification intellectuelle, rien de ce genre, mais une vibration. Et sur le corps, l'effet est extraordinaire. Ça se met à vibrer, vibrer, vibrer. Le 29 septembre 1960, j'ai vu le mantra a un effet d'organisation sur le subconscient, l'inconscient, la matière, les cellules du corps. Tout cela, ça prend du temps, mais c'est par sa répétition, par son obstination, que cela finit par agir. Cela a le même effet que les exercices quotidiens quand on travaille le piano Par exemple, on répète mécaniquement et ça suffit par vous remplir les mains de conscience. Ça vous remplit le corps de conscience. Alors on commence à comprendre quel pourrait être le nouveau principe de centralisation des cellules. C'est comme si l'on était au seuil d'une réalisation formidable et qui ne dépend que d'une chose toute petite. Le mantra de mère avait 7 syllabes. Om Namo Bhagavate. Il est pour les chercheurs qui voudraient trouver la matière telle qu'elle est, sans tous ces faux matérialismes ni ces faux spiritualismes qui vont avec peut-être l'esprit même au cœur de la matière. La matière libre. En effet, ces découvertes en soi assez stupéfiantes sont seulement le seuil d'une terre nouvelle, aussi nouvelle, mon Dieu, que pouvait être l'apparition d'une première prairie verte sur le manteau de cailloux de cette bonne terre et d'un premier regard sur ce printemps de la terre. Seulement, il ne suffit pas d'un nouveau regard. Il faut apprendre à vivre et à manipuler cette fantastique liberté cellulaire. Question de Satprem, comment va-t-on s'y prendre? Les derniers stades un peu vertigineux du passage d'un état à l'autre nous donnent la clé. Mère n'avait pas froid aux yeux. À 90 ans, elle était plus jeune et plus aventureuse que les petits hommes. C'est en quelque sorte l'aventurière de la prochaine espèce. Personne autour d'elle n'y comprenait rien. On la trouvait vieille, infirme, retombée en enfance. On se demande ce que devait sentir le premier reptile qui tout d'un coup prend des ailes. Mais ce vertige même contenait la clé du nouveau fonctionnement, comme quoi l'obstacle est toujours le levier. En 1963, le 20 juillet 63, mère dit, tous les rythmes habituels du monde matériel sont changés. Le corps ne peut plus savoir de la matière dont il savait avant. Alors, il y a eu une période où l'on est en suspens. Ce n'est plus cela, ce n'est pas encore cela, c'est au juste au milieu. Et la difficulté, c'est qu'il y a de tous les côtés et d'une façon constante toutes les suggestions imbéciles de l'entourage, l'âge, la détérioration, la possibilité de la mort, la maladie et l'abrutissement et la déchéance. Alors vient tout le temps, ce pauvre petit corps est harcelé. Il y a la vieille espèce autour. Il ne suffit pas de trouver la nouvelle. Il faut encore ne pas se faire tuer par la vieille. Un premier anthropoïde, c'est très dérangeant pour les singes. Alors mère continue en 69, le 19 février 69. Le travail consiste à changer la base consciente de toutes les cellules, mais pas toutes à la fois, parce que ce serait impossible. Même petit à petit, c'est très difficile. Au moment du changement de la base consciente, il y a presque comme un affolement dans les cellules et l'impression « Oh, qu'est-ce qui va t'arriver ?» Alors, de temps en temps, c'est difficile. C'est par groupe, presque par faculté ou par partie de faculté. Il y en a qui sont un peu difficiles. Il y a un moment où il y a presque une angoisse, n'est-ce pas? On est suspendu comme cela, c'est presque quelques secondes. Mais ces quelques secondes sont terribles. Et même cela, ça vient de cette espèce imbécile esprit de conservation qui est tout au fond de notre conscience cellulaire. Le corps le sait, il le sait. C'est une vieille habitude. Il faut que tous les groupes des cellules, toutes les organisations de cellules, fassent un abandon total dans une confiance totale. C'est indispensable. Et alors, il y en a c'est le mouvement spontané et inévitable. Il y en a d'autres qui doivent être un peu triturées pour qu'elles apprennent. Ce sont les différentes fonctions qui sont prises l'une après l'autre dans un ordre merveilleusement logique, suivant le fonctionnement du corps. C'est une chose merveilleuse. Seulement, le corps est une très pauvre chose, ça c'est vrai. Et puis, il y a toutes les inquiétudes autour. Depuis une angoisse à l'idée que c'est possible, jusqu'une hâte que la fin arrive. Il y a toute une gamme, depuis la crainte jusqu'au désir impatient, enfin libre. Enfin libre de faire toutes les bêtises que je veux. Et le corps est très sensible à ce qui vient des gens. Pratiquement, je ne peux plus manger, je me force. Autrement, je ne ferai que boire. J'ai l'impression de marcher à tâtons, que le moindre faux pas vous ferait tomber dans le précipice. On est comme sur une crainte, une crête, entre deux précipices, et c'est quelque chose qui se passe dans les cellules du corps. Ça n'a rien de moral, ce n'est même pas de la sensation. En 1971, le 22 décembre, à chaque minute, veux-tu la vie, veux-tu la mort, veux-tu la vie, veux-tu la mort. Le 18 octobre 1969, vraiment, l'état ordinaire, le vieil état, c'est consciemment la mort et la souffrance. Et puis dans l'autre état, la mort et la souffrance paraissent des choses absolument irréelles. Voilà. Le 20 mai 1970, le corps se trouve tout d'un coup en dehors de toutes les habitudes, de toutes les actions, réactions, conséquences, etc. Et là, c'est comme un émerveillement. Et puis, ça disparaît. C'est si nouveau pour la conscience matérielle que chaque fois, on se sent sûr. La conscience a une minute d'affolement. Question de Satprem dans l'agenda. Je me suis dit plusieurs fois que si tout d'un coup, on donnait à une chenille par l'évolution accélérée des yeux d'homme. Oui, c'est cela. Justement, le corps sait qu'il n'est pas malade. Il sait que ce n'est pas une maladie, que c'est justement la tentative de transformation. Il le sait très bien, mais il y a des siècles d'habitude. Alors je continue parce que je trouve ça extraordinaire. Et puis ce cri, non, C'est vraiment un état bizarre, un rien vous ferait perdre le contact. Il ne dépend plus des lois physiques et ça se trouve dans l'agenda 66 du 9-3. La continuité par cette prême, ce rien qui vous ferait perdre le contact, c'est la mort de la vieille espèce. Il fallait arriver à ce point de processus où il ne reste plus rien du vieux fonctionnement, n'est-ce pas? On ne peut être à la fois un reptile et un oiseau. Il y a un moment où il faut que ça décolle. Et dans ce moment-là, on attrape la clé. Qu'on l'attrape avec son corps, pas avec la tête, bien entendu. En 1960, le 26 novembre, mer continue. Pendant l'espace de 3-4 minutes, quelquefois 10, je suis abominablement malade avec tous les signes que c'est fini. Et c'est juste pour que je trouve, que je fasse l'expérience, que je trouve la force. C'est alors seulement avec ces moments-là où logiquement, selon la logique physique ordinaire, c'est fini. On attrape la clé. Alors cette prême continue, la clé est extraordinairement simple. C'est le poumon qui asphyxie. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche et il appelle l'air. Et qu'est-ce que font toutes ces cellules qui asphyxient, qui n'ont plus de support, plus d'habitude, plus de petits enroulements qui sont projetés dans rien? Elles répètent le mantra. Au lieu d'enrouler la mort, tout d'un coup, elles se mettent à enrouler la vie nouvelle, la vibration nouvelle. La force nouvelle, de couche en couche, épaisse, gluante, trépidante, du mental intellectuel au mental émotif et au mental des sensations, le mantra traverse comme une foreuse. Il vrille là-dedans, imperturbable. Probablement, avec toute la vertu d'une vieille bonne femme raboteuse qui répète et répète jusqu'à ce qu'il arrive à la couche microscopique du mental physique. Là, l'expérience devient automatique. Sous la pression du mantra, une maille cède, panique, puis une autre. Beaucoup de petites paniques éducatives. Chaque fois, un trou d'air se fait dans la trame. Et la cellule attrape ce qu'elle peut. Le mantra. Om Namo Bhagavate. Et alors, le phénomène devient extraordinairement intéressant. Il est contagieux. La matière est le lieu de la contagion immédiate. Rien ne peut séparer et cloisonner. Ça se répand instantanément pour la bonne raison que la matière est parfaitement contenue de la petite cellule jusqu'aux confins galactiques. C'est ce que Sri Aurobindo avait découvert quelques 40 ans plus tôt. Seulement, il ne nous a jamais expliqué sa découverte, probablement parce qu'il ne sert à rien d'expliquer. Il faut devenir dans son corps. Voilà ce qu'il disait, Sri Aurobindo. Il y a aussi un mental obscur, un mental du corps, des cellules mêmes, des molécules, des corpuscules, en quels le matérialiste allemand a parlé quelque part d'une volonté dans l'atome, et la science récente, Heisenberg, en présence d'imprévisibles variations individuelles dans les activités de l'électron, est sur le point de s'apercevoir que ce n'est pas une métaphore, mais l'ombre projetée par une réalité secrète. Ce mental corporel est l'ombre projetée par une réalité secrète. Ce mental corporel est très tangiblement réel par son obscurité, son attachement obstiné et mécanique au mouvement du passé, sa facilité à oublier, son refus du nouveau. Il est l'un des obstacles principaux à la pénétration de la force supramentale dans le corps et à la transformation du fonctionnement corporel. Par contre, une fois effectivement converti, ce sera l'un des instruments les plus précieux pour stabiliser la lumière et la force supramentale dans la nature matérielle. Alors c'est le chapitre 22, page 340, où Sri Aurobindo écrit cela. Alors Satprem continue, mais pour cela, il fallait arriver au point de l'asphyxie de la vieille matière, de la fausse matière, devrions-nous dire. Et maintenant, nous nous trouvons devant la question. La vraie question, qu'est-ce que donc que la matière telle qu'elle est, la vraie matière? On nous a dit que c'est telle loi, plus telle loi, plus telle loi, tel acide animé, tel nucléotide, une infernale addition. Oui, l'addition de toutes les habitudes que nous avons prises pour circuler dans un premier bouillon de culture terrestre. Mais des lois, il n'y en a pas. Il y a seulement des habitudes fossilisées. Et à ce jour de 1965, à une occasion très banale, le tableau est devenu très clair, comme de l'eau de roche. Il s'agissait d'une disciple qui avait un commencement de tumeur dans le cou. En 1965, le 26 juin 65, c'est une tumeur, probablement un cheveu qui s'est enroulé, que l'organisme a enveloppé d'une couche de peau et par habitude, il a continué à fabriquer de la peau autour, une couche, puis une autre couche. C'est une bonne volonté imbécile et c'est pour cela, comme cela pour presque toutes les maladies. C'est comme cela pour la vie tout entière, continue Satprem, et par la matière tout entière. Une bonne volonté imbécile qui se tord dans un sens et dans l'autre suivant les besoins du moment. S'il y avait un vrai besoin d'une vraie vie, et mère ajoute, c'est curieux, c'est l'origine des habitudes. Ces cellules ont l'impression que c'est cela qu'il faut faire. C'est cela qu'il faut faire, c'est cela. Mère tourne son doigt en rond. Toutes les maladies chroniques viennent de cela. Il peut y avoir un accident, quelque chose se produit. C'est un accident. Et alors, il y a une espèce de bonne volonté soumise et consciente qui qui fait que cela se répète. Il faut répéter, répéter. Mère tourne son doigt en rond. Et c'est ça qui arrête s'il y a une conscience qui est en contact avec elle et qui peut leur faire comprendre que non, dans ce cas-ci, il ne faut pas répéter. Alors, je vais bientôt terminer ce chapitre où Satprem poursuit. Cette conscience qui a un contact avec les cellules, c'est le mantra. C'est la défaite des habitudes. Et alors, on comprend que la matière peut devenir n'importe quoi. C'est la liberté absolue, pourvu qu'on trouve le moyen de contact. Puis Mère conclut. Il y a des cas où c'est extrêmement utile, ce pouvoir de répéter, répéter, répéter. Je pense même que cela qui donne de la stabilité à la forme, autrement on changerait de forme ou d'apparence, on se lie qui est frais. Dès lors, poursuit Satprem, nous comprenons que nous sommes au seuil d'une vie formidablement nouvelle. Le mantra est seulement un premier pas pour forer les couches, pour empêcher l'éparpillement du corps dans le cosmos, affreusement libre. Le deuxième pas est de savoir quel est le moyen, quel instrument allons-nous pouvoir remodeler cette matière libre. Mais la matière est libre. La difficulté, c'est qu'elle est formidablement libre. Quand le bocal est rompu, c'est la formidable invasion des énergies mêmes qui constituent la matière et les mondes. C'est ce que Sri Aurobindo appelait la force supramentale. Mère 62 dit ceci, une puissance si formidable, si libre, si indépendante de toutes les circonstances, de toutes les réactions, de tous les événements. Autre chose, autre chose. En 1964, le 7 mars, elle dit « Une puissance qui peut tout broyer et tout reconstruire. » Et en 1971, le 1er septembre, toutes les consciences corporelles ordinaires sont en très minces et trop fragiles pour supporter ce pouvoir formidable. Et alors, le corps est en train de s'habituer. Et il est, tu sais, comme s'il apercevait tout d'un coup un horizon tellement merveilleux, mais formidablement merveilleux, l'aurore d'une vie nouvelle. Alors Sri Aurobindo dit aussi que le mental physique était transformé. La transformation du corps suivrait tout naturellement. Pardonnez-moi. Mère dit à Satprem, Mère nous a ouvert les yeux en 1971, le 18 décembre, mais c'est radical, mon petit. Tu n'imagines pas. Je pourrais dire vraiment que je suis devenue une autre personne. Il n'y a que ça, cette apparence du corps extérieur qui reste semblable à elle-même. Dans quelle mesure il pourra changer? Sri Aurobindo a dit que si le mental physique était transformé, la transformation du corps suivrait tout naturellement. Vraiment, c'est la conscience qui doit changer. la conscience des cellules. Tu comprends? Ça, c'est un changement radical. Et nous n'avons pas de mots pour exprimer cela parce que ça n'existe pas sur la Terre. C'est latent, mais ce n'est pas manifesté. Sri Aurobindo, dans ce passage, et mère parallèlement. Voilà, alors aujourd'hui, je me permets de terminer le mental des cellules, écrit sous l'inspiration, sous l'influence de Sri Aurobindo, le mental des cellules, que Satprem a extraordinairement bien retraduit. Je remercie aussi Douce Mère pour tout ce qu'elle dit sur le mantra, sur le son et sur le début de cette horreur nouvelle dans un corps nouveau. Merci Sri Aurobindo, merci Douce Mère, merci Satprem et merci Anastasia pour cet enregistrement. Auroville Radio, Ganga Lakshmi.